Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30, temps universel du mardi 11 septembre 2018. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Tension à Boya, en région anglophone camerounaise, 4 personnes, dont un policier, ont été tuées. Réouverture de 2 postes frontières entre l'Érythrée et l'Éthiopie qui poursuivent leur processus de normalisation. Les États-Unis commémorent ce mardi le 17e anniversaire des attentats du 11 septembre qui avaient fait près de 3000 morts en 2000 ans. En partie magazine, on parlera de la mesure d'interdiction des sachets plastiques en République démocratique du Congo que les autorités ont du mal à faire appliquer.
Nous pensons que le gouvernement devra renforcer davantage les mesures d'application afin que cette mesure puisse être respectée parce que nous continuons à voir ces emballages.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout de suite le journal. Bienvenue à tous. Au Cameroun, 4 personnes, dont un officier de police, ont été tuées ce mardi matin à Boya. C'est suite à des affrontements qui ont éclaté dans la ville entre les séparatistes et les forces de sécurité et de défense. Les précisions de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jultap.
Ce mardi matin, il a fallu un fort déploiement des militaires camerounais dans la ville de Boya pour amener la situation à la normale dans le chef-lieu de la région du Sud-Ouest. Mais la ville de Boya porte encore les stigmates des affrontements de ce matin, rapportent les sources administratives et sécuritaires. Des carcasses de véhicules incendiés, des pneus de voitures calcinés et quelques débris de barricades érigés aux premières heures de la matinée par les séparatistes anglophones, selon les autorités militaires de la région. Certains résidents de Boya, joints par VOA Afrique, ont témoigné sur ces affrontements entre les séparatistes anglophones et les forces de défense et de sécurité. On a suivi les coups de feu vers 4h30 temps universel, a déclaré une résidente de Boya, sous anonymat, terrée dans sa maison. Selon des sources militaires, le théâtre des affrontements a été les localités de Mile 17, Mekong Albert Avenue et le lieu dit Mouya. Les séparatistes ont pendant quelques instants bloqué l'entrée de la ville de Boya avant d'être délogés par l'armée camerounaise qui contrôle désormais l'entrée et la sortie de la ville de Boya. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, l'aile dure du Front populaire ivoirien, fondée par l'ancien président Laurent Gbagbo, a demandé ce mardi le report des prochaines élections locales d'octobre, réitérant sa demande de réforme de la commission électorale indépendante. Il y a 10 jours, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, ancien membre de la coalition au pouvoir, avait lui aussi demandé un report du scrutin. Par ailleurs, des affrontements ont eu lieu entre policiers et étudiants qui protestaient à Abidjan contre des frais de scolarité. Les jeunes ont lancé des pierres et perturbé la circulation dans toute la ville. Les forces de l'ordre déployées en masse ont riposté par de nombreux tirs de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes. Au Burundi, les deux chambres du Parlement et le gouvernement ont condamné ce mardi le dernier rapport des enquêteurs des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Bujumbura parle de manipulation. Le gouvernement et le Parlement estiment que les droits de l'homme sont devenus un outil de domination. Ce document publié la semaine dernière fait état de graves violations des droits de l'homme, dont des crimes contre l'humanité. Ce rapport condamne aussi les discours haineux de certains responsables politiques, dont le président Pierre Nkurunziza. L'Éthiopie et l'Érythrée ont rouvert 2 postes frontières fermés depuis 20 ans, nouvelle étape de la réconciliation de ces deux voisins de la Corne de l'Afrique. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président érythréen Isaias Afewerki ont participé à 2 cérémonies distinctes à l'extrême sud de la frontière de l'Érythrée, au nord-ouest de l'Éthiopie. Cette réouverture des 2 postes frontières permettra un accès à la mer Rouge via les ports érythréens d'Assab et de Massawa. Cela va faciliter les importations et exportations éthiopiennes qui passent essentiellement par Djibouti. Ces postes frontières font partie des points de passage fermés en 1998, au début de la guerre de 2 ans qui a fait 80 000 morts. Un conflit de 20 ans entre l'Éthiopie et son ancienne province a suivi, paralysant le développement et minant la sécurité régionale. Mais, contre toute attente, une volonté d'ouverture de la part d'Abiy Ahmed en juin a été accueillie favorablement par Isaias Afewerki, amorçant un rapprochement entre les deux pays.
En Afrique du Sud, 57 meurtres sont commis chaque jour, selon les derniers chiffres sur la criminalité qui a connu un bond spectaculaire l'an dernier. Le ministre de la Police compare son pays à une zone de guerre après la publication de ses statistiques ce mardi. Avec un total de 20 336 victimes recensées, le nombre de meurtres a augmenté de près de 7% d'avril 2017 à mars 2018, soit la sixième hausse annuelle consécutive. La criminalité est en hausse malgré les promesses maintes fois répétées du gouvernement de tordre le cou à la violence qui gangrène l'Afrique du Sud. Plus de 100 personnes, dont une vingtaine d'enfants, ont péri dans le naufrage de deux bateaux au large des côtes libyennes début septembre. C'est ce qu'a annoncé Médecins sans frontières, citant des rescapés. Les deux bateaux pneumatiques avaient quitté les côtes libyennes le 1er septembre au matin, avec chacun à leur bord quelques 160 personnes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Américains commémorent ce mardi le 17e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 qui ont fait près de 3000 morts à New York, en Virginie et en Pennsylvanie. Le point avec Nathalie Barche.
Le président Donald Trump a prononcé un discours lors d'une cérémonie au mémorial de Shanksville en Pennsylvanie. Un avion s'y était écrasé après que les passagers eurent bravé les terroristes qui avaient détourné l'appareil. 17 ans après, Donald Trump proclame le 11 septembre journée du patriote.
Our destiny is always in our hands. America's future is not written by our enemies.
Notre destin est toujours entre nos mains. L'avenir des États-Unis n'est pas écrit par nos ennemis. L'avenir des États-Unis est écrit par nos héros, a-t-il déclaré. À New York, des centaines de personnes se sont réunies à Ground Zero, où deux vols commerciaux détournés avaient percuté les tours jumelles du World Trade Center. Les noms des victimes ont été cités lors d'une cérémonie solennelle. Ces attaques ont été perpétrées par 19 membres d'Al-Qaïda, poussant le président George Bush à envahir l'Afghanistan. Et Osama bin Laden, désigné comme commanditaire, sera abattu près de 10 ans après, sous la présidence de Barack Obama.
Nathalie Barge, on reste ici aux États-Unis où la météo a émis une alerte à la montée des eaux sur une grande partie de la côte est du pays à l'approche de l'ouragan Florence. Plus d'un million de personnes sont appelées à évacuer. Les États de Virginie, de Caroline du Nord et Caroline du Sud sont les plus menacés par l'ouragan. Ces trois États, ainsi que le Maryland et la capitale Washington DC, ont déclaré l'état d'urgence avant l'arrivée de l'ouragan prévu jeudi soir. Au moins 21 membres des forces syriennes et des milices alliées ont été tués dans une embuscade tendue par le groupe État islamique dans le sud-est de la Syrie. Les explications de Nanit Talani.
Selon Rami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'embuscade a eu lieu hier soir à Tloul al-Safa, dans le désert de la province de Sueda, dernier réduit du groupe État islamiste au sud-est de Damas. 8 djihadistes ont péri durant les affrontements qui ont suivi l'embuscade. L'agence Sana a fait état de combats intenses contre les terroristes de Daesh. Elle a indiqué que des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ciblés ont visé des positions de ce groupe terroriste. La région de Sueda est le théâtre de combats intenses depuis le 25 juillet. Les djihadistes avaient mené une série d'attaques coordonnées dans la province de Sueda, faisant plus de 250 morts. Le groupe a également pris en otage une trentaine de civils, dont plusieurs enfants. Deux otages sont morts, dont un jeune homme de 19 ans qui a été exécuté par décapitation.
Merci beaucoup, Nanit Talani. Par ailleurs, la coalition anti-djihadiste menée par les États-Unis a annoncé aujourd'hui avoir entamé la phase finale de son opération militaire contre le groupe État islamique dans l'est de la Syrie. Dans leur offensive, les FDS, une coalition de combattants dominée par les Kurdes et soutenue par Washington, bénéficient du soutien de l'aviation et de l'artillerie de la coalition, a précisé donc cette coalition dans un communiqué. La Russie accuse les rebelles syriens de préparer la mise en scène d'une fausse attaque chimique qui serait ensuite attribuée au régime de Damas près d'Idleb, dans la dernière région échappant encore au contrôle des troupes de Bachar el-Assad. Depuis le début de la guerre en Syrie, les pays occidentaux ont accusé à plusieurs reprises Bachar el-Assad d'avoir usé d'armes chimiques contre la population civile, des accusations à chaque fois rejetées par Damas et son allié russe. Et en Afghanistan, 33 personnes ont trouvé la mort dans une série d'attentats ayant frappé l'est du pays. Certaines des victimes participaient à une manifestation près de la frontière pakistanaise. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on parle de l'actualité économique dans la Minute Éco présentée ce soir par Eric Manerakizla.
L'Export-Import Bank of China a accordé au Nigeria 500 millions de dollars pour initier des programmes de développement dans le secteur pétrolier. Le gouvernement pourra donc financer l'achat d'équipements pétroliers chinois par des investisseurs nigériens. Ce financement facilitera aussi la création de plusieurs raffineries modulaires et plus de 100 000 emplois dans le pays. La Zambie envisage de réduire son déficit budgétaire à 5,1% du produit intérieur brut d'ici les trois prochaines années. Lusaka vise à améliorer les performances de l'économie, maintenir le taux d'inflation entre 6% et 8% et accroître les recettes intérieures à au moins 19% du produit intérieur brut. La dette extérieure s'est établie à 9,3 milliards de dollars en juin dernier. Au Zimbabwe, le nouveau ministre des Finances, Mthuli Nsubi, veut introduire le dollar zimbabwéen comme monnaie souveraine. Elle avait été abandonnée il y a près de 10 ans pour le dollar américain. Les précieux billets verts sont de plus en plus rares. La dette publique du Zimbabwe a atteint 2 milliards de dollars américains, soit environ 90% du produit intérieur brut. Le ministre a aussi promis une réforme fiscale et la renégociation de la dette pour accompagner le retour de la devise nationale. Monsieur Nsubi est professeur à l'université britannique d'Oxford et ex-président de la BAD.
La page des sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdelrahman, bonsoir à tous.
Suite de la Ligue des Nations ce soir en Europe.
La Croatie, finaliste du Mondial 2018, reprend la compétition ce mardi avec un choc contre l'Espagne. Un challenge pour les hommes de Zlatko Dalic, tandis que la soirée s'annonce plus accessible pour la Belgique en déplacement en Islande. Les autres matchs ce soir, Bosnie-Herzégovine-Autriche, Finlande-Estonie, Hongrie-Grèce, Moldavie contre la Biélorussie et puis le Luxembourg en déplacement à Saint-Marin.
Et des matchs amicaux également.
Et oui, à Osaka, le Japon qui bat le Costa Rica 3-0, le Kenya qui domine le Malawi 1-0, le Gabon affronte la Zambie sans Pierre-Emerick Aubameyang qui a quitté la sélection gabonaise pour ce rendez-vous devant leur public. Les Panthers sont donc privés de leur buteur et capitaine, l'attaquant d'Arsenal, auteur de l'égalisation face au Burundi ce week-end en éliminatoire de la CAN 2019, a quitté la sélection hier soir pour l'Europe. Et on joue ici aussi de ce côté de l'Atlantique, l'Argentine qui rencontre la Colombie dans le New Jersey, tandis que le Brésil affrontera le Salvador dans le Maryland et le Mexique se mesure aux États-Unis à Nashville.
Vers une nouvelle coupe pour les clubs européens.
L'UEFA a donné son feu vert à la création à partir de 2021 d'une troisième coupe européenne ouverte à 32 clubs, annonce d'Andrea Agnelli, le président de la Juventus Turin et de l'Association européenne des clubs. Il n'existe, vous le savez, que deux coupes européennes pour le moment, la Ligue des champions et la Ligue Europa, depuis la disparition en 1999 de la Coupe des vainqueurs de coupe. La création de cette nouvelle compétition, voulue par les petits championnats et les petits clubs, doit encore être officiellement validée par le comité exécutif de l'UEFA.
Merci Nicolas.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. Au Burundi, rentrée des classes hier pour des dizaines de milliers d'élèves du primaire. Le chiffre exact n'est pas encore connu, des inscriptions continuant à se faire dans beaucoup de cantons scolaires. Toujours est-il qu'une diminution des abandons scolaires a été constatée dans certaines contrées du Burundi profond, mais nombreux sont les enfants qui ne peuvent plus s'octroyer le matériel scolaire requis, car les parents n'en ont pas les moyens. C'est ainsi que des bienfaiteurs et des autorités ont distribué certains matériels scolaires dans certaines provinces du Burundi. Reportage de notre correspondant sur place, Christophe Kourounziza.
Dans les ruelles de Bujumbura, des enfants revenaient vers 12h30, certains habillés de leurs uniformes, mais les mains vides, d'autres avec des cahiers dans leurs sacs au dos. Mais dans beaucoup de ménages de la capitale, les enfants n'avaient pas encore acheté tout leur matériel didactique. Leurs parents ont indiqué à VOA Afrique que les temps qui courent ne sont pas adéquats, car lier les deux bouts de la journée devient une gymnastique compliquée. Témoignage de ce parent de 5 enfants qui a requis l'anonymat.
La situation est devenue vraiment très difficile. Moi, ma femme ne travaille plus, je suis seul, et les activités marchent. Je suis très mal. Alors, le rentrée scolaire de cette année, ça stresse beaucoup. Je n'ai même pas encore arrivé à payer le minervar de mes enfants. Les cahiers, je n'ai jamais eu toute la totalité des cahiers.
Mais dans certaines localités de l'intérieur du pays, des bienfaiteurs ont distribué du matériel scolaire aux plus vulnérables, tandis que le président de l'Assemblée nationale burundaise, Pascal Nyabendana, a octroyé aux élèves qui ont fait des camps d'été. Le président de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, Jacques Chimirima, cette année scolaire 2018-2019 est meilleure que l'année dernière où on a enregistré beaucoup d'abandons scolaires.
Au cours de l'année scolaire 2017-2018, nous avons pu constater plus de 71 652 cas d'abandons scolaires et 1421 cas de grossesse non désirée. Et là, comparativement aux effectifs de l'année passée, donc c'est-à-dire l'année scolaire 2016-2017, il y a eu une petite dégradation par rapport aux effectifs de l'année scolaire 2016-2017. Parce que là, on avait 218 345 cas d'abandon scolaire et pour cette année passée, on a pu recenser 171 652 cas.
Jacques Chimirimana fustige également le taux d'abandon scolaire à l'est du Burundi dans la province de Ruyigi.
Nous avons attiré l'attention du gouvernement sur la situation qui prévaut dans la province de Ruyigi, une province qui quitte de 594 cas d'abandon scolaire à 10 838 cas. Donc cela c'est vraiment normal. Demande la conjugaison des efforts de tous les intervenants, donc les organisations de la société civile, les élus du peuple, les députés, les sénateurs, les autorités administratives, sans oublier les parents, sans oublier les enseignants qui sont en contact permanent avec les enfants.
Signalons aussi que les frais d'inscription pour cette année scolaire ne seront pas payés par les parents, mais seront comptabilisés dans les frais de minéral des élèves. Christophe Nkourounziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En République démocratique du Congo, l'utilisation des sacs, sachets et autres emballages en plastique est strictement interdite depuis le 1er juillet dernier. Objectif, préserver l'environnement et améliorer les conditions de vie des populations. Cependant, cette décision gouvernementale qui est entrée en vigueur après un moratoire de 6 mois souffre dans sa mise en application. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La décision gouvernementale d'interdire l'importation, la production et la commercialisation des emballages en plastique est officiellement entrée en vigueur le 1er juillet dernier après un moratoire de 6 mois. Mais 2 mois après, le décret y afférent signé par le Premier ministre s'applique difficilement sur le terrain. Le ministre de l'Industrie, qui pilote les opérations de sensibilisation et de contrôle, a rappelé que cette décision, salvatrice pour l'environnement, ne devrait souffrir d'aucune exception. Marcel Léou a par ailleurs annoncé à VOA Afrique le déploiement des inspecteurs des ministères de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Environnement pour s'assurer de la mise en application de cette décision.
Toute la population, les opérateurs économiques y compris, puissent respecter ce décret. Parce que au-delà de cette date, les inspecteurs du ministère de l'Industrie, les inspecteurs du ministère du Commerce extérieur, de l'Environnement et de l'Économie feront plusieurs descentes sur terrain pour vérifier la mise en application de ce décret portant interdiction des emballages et sacs en plastique.
Le gouvernement avait exigé aux entreprises locales productrices des déchets solides, après de nombreuses mises en demeure, de se transformer en producteurs d'emballages en papier et autres emballages biodégradables pour ne pas fermer. L'environnementaliste Alain Botoko propose de son côté que l'État finance plutôt le recyclage de ces emballages en plastique.
Nous, dans la gestion environnementale, nous disons les déchets solides ou les déchets en plastique ne sont produits à Kinshasa, par exemple, qu'à 16%. Dans tout le Congo, c'est autour de 7-8%. Et le groupe des déchets qu'il faut lutter, ce sont les déchets organiques. Et là, on peut produire de l'électricité. Donc, le déchet en plastique, on peut recycler ça. L'État peut donner des moyens aux entrepreneurs, initier des actions pour que le déchet plastique soit transformé, par exemple, en bitume. Ça peut durer des années et des années.
Certains inspecteurs font déjà le tour des supermarchés de Kinshasa pour s'assurer que la mesure est respectée. Les Kinois, eux, apprécient diversement cette décision gouvernementale.
Cette décision souffre d'application sur terrain. Nous pensons que le gouvernement devra renforcer davantage les mesures d'application afin que cette mesure puisse être respectée, parce que nous continuons à voir ces emballages en sachets, en plastique, qui sont en train de détruire l'environnement, en train d'être produits et même commercialisés. Et cet usage ou cette utilisation de ces emballages ne favorise pas la propriété dans la ville, ça pollue également l'environnement.
Dans les jours à venir, le gouvernement de la RDC promet d'intensifier le contrôle et d'étendre la mesure sur l'ensemble du pays. Kinshasa, Thierry Kamouli de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Bukavu sur 97.4 FM.
Le chanteur et opposant ougandais Bobi Wine se trouve ici aux États-Unis pour des soins après avoir passé 2 semaines en détention dans son pays. Il affirme avoir été victime de torture, mais Kampala dément. Bobi Wine, député de l'opposition, fait parler de lui depuis son inculpation pour trahison. Patricia Huon s'est rendue à Kampala et nous dresse son portrait à travers ce reportage.
Free Bobi Wine, libérer Bobi Wine. L'inscription à la peinture blanche se répète tous les quelques mètres sur les murs de Kamocha, un quartier pauvre de la capitale ougandaise Kampala. C'est dans ces ruelles qu'a grandi Robert Chakulani Sentamu, mieux connu sous son nom de scène, Bobi Wine. En se lançant en politique, la star locale de l'Afrobeat est devenue le porte-parole d'une jeunesse en mal de héros auquel s'identifier. Bachir, 20 ans, est producteur dans un studio d'enregistrement créé par son idole.
Ces chansons donnent de l'espoir. Il parle de la vie dans le ghetto, des difficultés, de comment on peut s'en sortir. Ces paroles, j'ai mis ça en connecté. Même avant, les chansons de Bobi Wine étaient déjà politiques. Le président ne comprend pas les jeunes. Nous voulons une nouvelle génération, quelqu'un qui attend nos pleurs.
Celui qu'on surnomme ici le président du ghetto s'est fait un nom sur ses prises de position engagées. Dans ses chansons, il dénonce les dérives du pouvoir, la corruption, les injustices. L'année dernière, Bobi Wine saisit l'opportunité d'une élection partielle pour se présenter comme candidat indépendant. Il est élu. En Ouganda, 3/4 de la population a moins de 30 ans. La génération née alors que le président Yoweri Museveni était déjà au pouvoir n'a pas connu la guerre. Plus que de stabilité, elle rêve de changement. Anna Adeke Ebadjou, 26 ans, est députée nationale des jeunes à l'Assemblée.
Bobi Wine is like a breath of fresh air.
Bobi Wine, c'est une bouffée d'air frais. Jusqu'ici, même l'opposition était dominée par des gens qui avaient combattu aux côtés de Museveni. Mais Bobi Wine est différent. Il est jeune, il est dynamique, il a galéré dans sa vie, il a fait de la musique, a encouragé les jeunes à retourner à l'école. Son histoire, c'est notre histoire.
La popularité du chanteur inquiète les autorités qui répondent de manière brutale. Mais pour Yvan Okuda, journaliste et commentateur politique, il ne faut pas sous-estimer leur contrôle.
Bobby Wine a attiré une énorme attention de la part des médias locaux et internationaux, mais le président actuel sait comment utiliser la violence, la machine politique lors des élections. Il détient l'argent aussi. Pour renverser les statu quo, il faudrait plus que des réseaux sociaux. Cela demanderait énormément de préparation et d'organisation.
Mais Bobby Wine est déterminé à revenir en Ouganda dès qu'il aura repris des forces et le rapport devenu député n'a pas fini d'agiter la scène politique du pays. Patrice Lyon à Kampala pour VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin, 19h05, temps universel ce mardi, juste après les nouvelles. L'invité de LMF est Diane Ninina Zoué, journaliste à la Voix de l'Amérique, originaire du Burundi, pour une discussion sur la visibilité des femmes dans les médias, à savoir s'ils sont autant sollicités que les hommes par les médias. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel sur VOA Afrique. Alors à tout à l'heure.
Et on termine par ici, aux États-Unis, où 17 ans après les attaques meurtrières du 11 septembre, plus de 1100 victimes doivent encore être identifiées. Dans un laboratoire de New York, une équipe de chercheurs travaille sans relâche pour identifier leurs restes. Jour après jour, ils répètent le même protocole des dizaines de fois, comptant sur les progrès technologiques pour améliorer leurs recherches. Arzuma Compaoré.
Tout commence par l'examen d'un fragment d'os trouvé sur le site des ruines des tours jumelles. À ce stade, il n'a pas encore été préparé pour le test d'ADN. Le fragment est coupé et transformé en poussière fine, puis mélangé à deux produits chimiques pouvant exposer puis extraire l'ADN. Mais le succès n'est pas garanti. Le feu, la moisissure, les batteries, de la lumière solaire, le carburant, tous ces éléments qui détruisent l'ADN étaient présents à Ground Zero.
All these things destroy DNA and they were all present at Ground Zero.
Les 22 000 restes humains trouvés sur le site depuis les attaques ont tous été testés, entre 10 ou 15 fois déjà. Jusqu'à présent, seuls 1642 des 2753 personnes décédées dans les attentats de New York ont été officiellement identifiées. Même s'il est arrivé que les années passent sans qu'aucun nouveau nom ne soit rajouté à la liste des identifiés, tout le monde ici garde espoir.
Quand on identifie un de vos proches, cela vous ramène à ce jour, à la manière horrible dont il est mort. Mais cela vous donne aussi un peu de réconfort et la possibilité de donner un enterrement convenable à son être cher.
Le rôle des proches est essentiel car seule la comparaison de l'ADN des restes avec un échantillon fourni par les familles peut permettre l'identification. Le chef de l'unité des personnes disparues du bureau du médecin légiste en chef de la ville de New York a déclaré que le bureau continuait à faire de nouvelles identifications de restes. Il a déjà identifié des centaines de fragments d'os appartenant à des personnes identifiées, permettant ainsi le retour de leurs restes aux membres de la famille. Le laboratoire du bureau du médecin légiste en chef de la ville de New York est le plus grand laboratoire judiciaire en Amérique du Nord. Aujourd'hui, des équipes du monde entier viennent à New York pour s'inspirer de l'expérience du laboratoire.
Salut les amis, ici Roger Noutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, en Diane Lee, il y aura des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
La fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à la mise en onde de Michel Joseph et Firmin Koyaweda. À la console, Bill Barber, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.